Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. De nouveaux échecs pour Boris Johnson. Hier soir au Parlement britannique, les députés ont non seulement voté le principe du report du Brexit à la condition que l'UE l'accepte, mais ils ont par ailleurs rejeté les législatives anticipées que le Premier ministre voulait organiser à la mi-octobre.
Un nouvel attentat revendiqué par les talibans, le deuxième en moins d'une semaine, a secoué ce matin la capitale afghane.
Thomas. Le premier bilan fait état d'au moins 10 morts, autant d'attaques qui interviennent alors que se poursuivent actuellement des tractations en vue d'un accord entre États-Unis et insurgés.
La concertation sur la réforme des retraites a débuté ce matin et pour deux jours à Matignon avec les partenaires sociaux.
Un deuxième cycle de concertation donc sur le futur système universel. En revanche, il semble qu'il faudra encore patienter pour connaître le calendrier et la méthode de cette réforme hautement inflammable. Et puis comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, Laurent Pietraszewski, député de La République En Marche du Nord et rapporteur de la Commission des Affaires Sociales. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera à la grande table des idées.
On a beaucoup parlé de 68, surtout l'an passé, parce que c'était les 50 ans, commémoration, célébration, un peu moins de 69, qui est pourtant l'année où tout a basculé, selon notre invité. Brice Couturier serait avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table à l'occasion de la parution de son mai 1969, année fatidique.
Merci et à tout à l'heure. 6 semaines à peine après son arrivée à Downing Street, la stratégie du coup de force permanent que Boris Johnson se sera évertué à mettre en place avec une application certaine serait-elle déjà en train de dérailler? Voilà 2 jours maintenant que les coups pleuvent sur le Premier ministre. Après avoir perdu sa majorité à la Chambre des communes, une humiliation à laquelle il avait répondu par une purge de son propre camp, les députés britanniques ont adopté hier une loi demandant le report du Brexit, infligeant ainsi un nouveau désaveu au Premier ministre. Enfin, last but not least, Boris Johnson a même fini par échouer hier à dissoudre le Parlement pour se sortir de l'impasse. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles, alors acculé par tous ces revers parlementaires ce matin, Boris Johnson a fini par accepter de ne pas faire d'obstruction au texte législatif demandant donc un nouveau report du Brexit, report qui devra toutefois, Angélique, encore être approuvé à l'unanimité des 27 autres États membres de l'Union européenne.
Ah oui, cela n'est pas gagné, même si dans ce domaine plus personne ne fait de pronostics. Et ce sont en effet les dirigeants européens qui auront à trancher lors du prochain sommet. Ce sont les 17 et 18 octobre. La France, on le sait, y est plutôt opposée. Hein. Un nouveau report ne réglerait rien aux problèmes, a d'ailleurs déclaré ce matin la ministre française aux Affaires européennes sur Radio Classique. Pour Amélie de Montchalin, diluer un problème dans le temps ne permet pas de le résoudre. Mais d'autres pays, Allemagne en tête, ont toujours été plus ouverts à ces reports de date. Du côté des négociateurs et de la Commission, certains se demandent à quoi servirait un nouveau report si l'on ne trouve pas de solution sur le point de blocage, à savoir la frontière irlandaise. Les Britanniques n'ont toujours pas proposé de solution alternative qui respecte l'accord. On n'en a pas trouvé en 3 ans. À quoi servirait 3 mois de plus, confie une source européenne. D'un naturel discret, Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit, est sorti de sa réserve hier. L'Union européenne fait preuve de calme, de vigilance et de sang-froid, comme son négociateur, a-t-il déclaré à l'AFP. La balle est donc toujours dans le camp des Britanniques. Mais s'il y avait des élections anticipées et un nouveau gouvernement, mi-octobre par exemple, alors on imagine tout de même pas les 27 refuser un nouveau report. J'ajoute que lors de son point de presse quotidien qui s'est terminé il y a quelques minutes, une porte-parole de la Commission vient de préciser qu'à ce stade, aucune demande officielle de report n'a été transmise par Londres à l'équipe de Jean-Claude Juncker.
Alors une chose semble toutefois certaine, Angélique, officiellement du moins, on se prépare quand même activement un no deal.
Ah oui, hier encore, la Commission européenne a annoncé de nouvelles mesures, le 6e train de mesures d'urgence, un soutien financier qui pourra aller jusqu'à 780 millions d'euros pour soutenir les États membres les plus fragilisés par un Brexit dur. On pense à l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas ou bien la France. Les travailleurs qui perdraient leur emploi à cause de ce départ brutal des Britanniques de l'Union pourraient aussi, sous condition, être indemnisés. L'essentiel de ces sommes serait puisé dans le fonds de solidarité de l'UE, dévolu normalement aux pays membres victimes de catastrophes naturel.
Merci Angélique Boin, en direct de Bruxelles. Et puis j'ajoute qu'attaquer sur le terrain de la politique, tant nationale qu'internationale, Boris Johnson l'est aussi sur celui de la justice. Une audience contre la suspension du Parlement est prévue aujourd'hui à la Haute Cour de Justice à Londres. Enfin, on vient de l'apprendre. Le frère de Boris Johnson a lui annoncé sa démission ce matin du gouvernement. En Italie, le nouveau gouvernement de coalition réunissant une alliance aussi inédite qu'improbable, le mouvement anti-système 5 étoiles d'un côté, le parti démocrate de centre-gauche de l'autre, a été dévoilé hier, une composition à parité entre les deux anciennes formations ennemies. Alors à présent, une question demeure, ce gouvernement a-t-il des chances de survivre à ses propres contradictions? Seul le temps le dira, quoi qu'il en soit, la nouvelle équipe dirigée par le président du Conseil sortant, Giuseppe Conte, a bel et bien prêté serment ce matin. Il lui reste désormais à obtenir la confiance du Parlement, une dernière étape qui pourrait se réaliser dès la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine. Quand l'Iran maintient et même accentue la pression sur les Européens pour tenter de sauver l'accord de Vienne hier, tout en menaçant de réduire sans attendre ses engagements nucléaires, le président Hassan Rouhani a accordé un nouveau délai de 2 mois aux chancelleries européennes pour trouver une solution à la chute de ses revenus pétroliers depuis le rétablissement des sanctions américaines, lesquelles d'ailleurs ont encore été renforcées, preuve que pour l'instant, et contrairement à ce qu'avait laissé entendre Donald Trump lors du précédent G7, eh bien Washington exclut catégoriquement de relâcher la pression sur Téhéran, sans compter que pour ne rien arranger, ce matin, c'était au tour du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de réclamer plus de pression lui aussi sur la République islamique. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors tous ces derniers développements compliquent évidemment un peu plus encore les efforts de la France, laquelle s'était employée depuis quelques semaines à réamorcer un dialogue entre Washington et Téhéran. Concrètement, Paris a tenté d'offrir à l'Iran une ligne de crédit de 15 milliards de dollars, qui correspond environ à un tiers de ses exportations d'hydrocarbures, pour lui apporter une partie de la bouffée d'oxygène financière que l'accord de 2015 était censé lui procurer. Tentative vaine, manifestement, que recherche au fond l'Iran, Christian?
Écoutez Thomas, la République islamique veut montrer qu'elle reste droit dans ses bottes, qu'elle n'est pas prête à céder aux diktats de la Maison Blanche. La médiation française aurait pu permettre de calmer le jeu, mais Donald Trump veut asphyxier l'Iran en l'empêchant d'exporter la moindre goutte de son pétrole. Le président Rouhani, lui, préférait un compromis, mais il est entraîné dans une logique d'escalade, comme son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Zarif, tous deux dans le collimateur des durs du régime, qui souhaitent une confrontation avec le grand satan américain. Il ne faut pas oublier non plus que l'Iran se trouve dans un contexte préélectoral avec le renouvellement au printemps prochain du Majlis, le Parlement de la République islamique, et donc le climat politique intérieur est propice à toutes les surenchères nationalistes. Dans ce contexte tendu, la porte de la négociation n'est pas encore complètement refermée. D'ailleurs, Hassan Rouhani a soigneusement calibré cette troisième étape du désengagement de l'Iran de l'accord nucléaire de Vienne, qui ne concerne que la recherche et le développement, jusque-là bridé. Le président iranien n'a pas annoncé une augmentation du taux d'enrichissement de l'uranium et a donné aux Européens un délai de 2 mois pour trouver une solution. Mais cette annonce d'Hassan Rouhani est un mauvais signal pour Emmanuel Macron, qui voit les chances de succès de sa médiation s'éloigner un peu plus. La prochaine fenêtre de tir diplomatique est prévue fin septembre, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Mais à ce stade, on voit mal comment la crise entre les États-Unis et l'Iran pourrait se régler tant que les deux camps refusent de faire le moindre pas en avant.
Merci Christian Chéneau. Au moins 10 personnes ont été tuées et 25 autres blessées ce matin dans l'explosion au centre de Kaboul d'une voiture piégée, un attentat revendiqué par les talibans. Alors lundi dernier déjà, la capitale afghane avait été le théâtre d'une attaque qui a fait 16 morts, elle aussi revendiquée par les talibans, et toutes ces violences interviennent dans un contexte très particulier, au moment même où les insurgés négocient avec les États-Unis un accord en vue de mettre fin à ce conflit vieux de 18 ans. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Alors cet accord toujours en négociation doit permettre le retrait d'un grand nombre de militaires américains du pays en échange de la garantie que les talibans empêcheront toute activité de groupe terroriste sur le territoire. Et à l'évidence, Nabila, eh bien, on en est encore très loin.
Oui, l'attentat suicide de ce matin dans un lieu censé être sécurisé de la capitale afghane paraît être un message aux deux parties, Washington et Kaboul. Le kamikaze s'est fait exploser non loin de l'ambassade des États-Unis et de la force de l'OTAN, donc possible surenchère sur les termes du projet d'accord en attente entre les talibans et les États-Unis. Le négociateur américain Zalmay Khalilzad avait parlé d'un retrait américain de 5 bases militaires dans un délai de 135 jours après la signature de l'accord, un accord qui était annoncé comme imminent le week-end dernier, voire lundi. Or, le lundi, c'est plutôt une attaque au camion piégé près d'un complexe utilisé par les forces internationales, là aussi, qui a secoué Kaboul, faisant 16 morts. L'autre question qui ne semble pas réglée est la place du gouvernement afghan dans ce processus. Quelques jours avant la reprise du dernier round de négociations taliban-États-Unis en fin août dans la capitale qatari, un chef du mouvement insurgé insurgés, qui avait requis l'anonymat, avait rejeté toute idée de cesser le feu avec le gouvernement d'Ashraf Ghani. Il avait même ajouté « Nous poursuivrons le combat et nous prendrons le pouvoir par la force ». Or, pour Kaboul, les efforts des Américains et des autres partenaires ne porteront leurs fruits que lorsque les talibans entreront en négociation directe avec le gouvernement afghan, un gouvernement qui se dit donc préoccupé et qui en était hier à demander des éclaircissements aux négociateurs américains pour évaluer les risques et les conséquences que comporte le projet d'accord entre les talibans et Washington.
Merci Nabila Hamel. À Hong Kong, la décision de la chef de l'exécutif hier de retirer définitivement son projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine suffira-t-elle à solder le contentieux entre Pékin et la mouvance pro-démocratie, sans compter que le refus pendant de très longues semaines du gouvernement semi-autonome de transiger a eu pour conséquence non seulement de durcir le mouvement dans ses modes d'action, mais aussi d'élargir considérablement ses revendications. Ce matin, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a exhorté les manifestants à venir dialoguer. Le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, a reconnu ce matin avoir reçu une rémunération excédant ce à quoi il avait droit, une affaire qui, dans un pays où l'intégrité d'un dirigeant prime tout autant que les performances de son groupe, vient donc fragiliser un peu plus encore sa légitimité. Rappelons que le groupe automobile, en pleine refonte de son système de gouvernance, dont les défaillances ont été mises au grand jour après l'arrestation de Carlos Ghosn, fait actuellement face à une véritable dégringolade de ses bénéfices et de ses ventes. Les juges d'instruction ont ordonné ce matin un non-lieu général pour Airbus et Air France pour le crash du vol AF447 Rio-Paris qui avait causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage dès le 1er juin 2009, une décision qui diffère des réquisitions du parquet de Paris, lequel avait demandé le mois dernier un procès pour Air France pour négligence et imprudence. Après que Didier Guillaume s'est dit hier opposé à l'instauration de zones sans pesticides dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, une folie selon les propres termes du ministre de l'Agriculture, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a elle renchéri ce matin, certes avec des mots plus nuancés, il faut faire les choses de manière raisonnable et raisonnée, a-t-elle déclaré avant d'ajouter, il faut laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter. En clair, pas question, ainsi que l'avait pourtant déclaré fin août Emmanuel Macron, de soutenir les initiatives telles que celle du maire de Langouette, lequel avait pris dans sa commune un arrêté anti-pesticide avant de se heurter à une décision de justice. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Dans cette affaire, le gouvernement a visiblement, Anne-Laure, du mal à se positionner.
Oui, si dans un premier temps, l'Élysée comme le ministère de l'écologie avait pris position dans le sens du maire de Langouette, le principe de réalité est, semble-t-il, venu nuancer les propos des membres du gouvernement. Si l'intention d'éloigner le plus possible les l'épandage de pesticides des habitations est toujours affiché. La distance maximale, elle, fait débat. 150 mètres, soit la longueur d'un terrain de foot et demi autour de toute habitation située en bordure de terrain agricole, c'est irréaliste et par conséquent irréalisable, selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui fait valoir que cette décision du maire de Langouette s'est prise sans concertation avec ses propres élus. Écoutez-la.
Ce maire a fait du buzz, de la politique, de l'activisme aussi. Ce n'est pas de son ressort, il n'interdit pas la circulation des voitures dans sa commune. Pourquoi comme ça sur les phytos ? Donc moi j'entends les lanceurs d'alerte, mais je veux des lanceurs d'alerte sérieux. Aujourd'hui dans les textes, il est question de 10 mètres, de 5 mètres. Je crois qu'il y a beaucoup d'idéalisation par méconnaissance de ces sujets-là. Objectivement, des zones en friche en bordure des maisons, c'est pire que des espaces cultivés.
Le ministre de l'Agriculture lui prône plutôt avec la ministre de l'Écologie la mise en place de chartes. Riverains, agriculteurs et élus se mettraient d'accord sur les distances à respecter pour les épandages et en cas de désaccord, une zone minimale serait imposée bien loin des 150 mètres. Le chiffre en discussion tourne entre 3 et 10 mètres. Didier Guillaume, comme la FNSEA, préfère pousser les agriculteurs à réimplanter des haies en lisière des champs plutôt que d'imposer une limite qu'il juge, encore une fois, arbitraire et irréaliste.
Merci Anne-Laure Chouin. Édouard Philippe rencontre depuis ce matin et pour deux jours les partenaires sociaux afin de s'entretenir avec eux sur la fameuse réforme des retraites avant de dévoiler une feuille de route probablement la semaine prochaine. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Matignon. Alors sur ce dossier potentiellement explosif de l'acte 2 du quinquennat, l'exécutif joue aujourd'hui l'apaisement. Sans doute le long épisode des Gilets jaunes est-il passé par là ? Est-ce que c'est également ce qui ressort des premières consultations de la matinée, Annabelle ?
Oui, Verrier de Force Ouvrière, qui était le premier à ouvrir le bal ce matin, vient à peine de sortir. L'entretien avec le Premier ministre a été long, donc on peut considérer que l'exécutif a en effet pris la mesure du besoin des partenaires sociaux d'être pris en compte et d'être écouté. Comme a insisté le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier, on a passé du temps à expliquer notre opposition au système unique par points. Pour le syndicat qui se dit réformiste, ce n'est pas le problème d'une réforme, mais celle-ci part sur le mauvais pied. Le système de réforme universelle par points est injuste, voire même dangereux, estime Yves Verrier. Il pose de nombreuses questions sur, par exemple, la valeur du point et le rachat au moment du départ à la retraite. C'est ce qu'il appelle une réforme paramétrique qui laissera les futurs retraités aux mains même des gouvernements qui décideront de tout. Et on se demande à quelle sauce ils seront mangés dans les années futures. Voilà, les partenaires sociaux vont se succéder pendant ces deux jours. Tous viendront exposer leurs critiques et surtout rappeler leur expertise. Ce sera autour en début d'après-midi de Laurent Berger de la CFDT, le seul syndicat, rappelons-le, qui pour le moment soutient le régime universel.
Merci Annabelle Grolier en direct de Matignon. C'est un seuil symbolique qui a été franchi. Un logement parisien coûte désormais plus de 10 000 euros le mètre carré. C'est là le couronnement d'années de flambée sans équivalent dans le reste de la France et qui manifestement ne donne pas de signe donc de vouloir s'arrêter. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer à Anne-Laure aujourd'hui cette spécificité parisienne ?
Eh bien par une offre qui reste tendue. Il n'y a pas tant de logements disponibles à l'achat alors même que la demande est forte. D'autant que les taux d'intérêt qui sont au plus bas donnent aux ménages des marges de manœuvre supplémentaires. Alors on ne parle pas là des classes moyennes avec enfants et des primo-accédants qui partent plutôt se loger aux abords de Paris car la capitale devient beaucoup trop chère. Mais Paris reste attractif pour des célibataires ou couples CSP+. Il y a aussi des investisseurs qui vont acheter des surfaces pour louer de manière saisonnière type Airbnb. Ajoutez à cela un effet Brexit avec des acheteurs qui se sont portés sur les appartements de luxe et les grandes surfaces. Alors du côté des professionnels du secteur, on estime que la pression sur les prix n'est pas prête de retomber s'il n'y a pas de choc de l'offre. Ça prendra du temps, disent-ils, avec encore un gros point noir, 100 000 logements vacants à Paris et même 200 000 si on considère ceux qui sont sous-utilisés. Alors on notera qu'il y a des initiatives pour accroître le nombre de logements disponibles, surélever des bâtiments, réaménager les friches et entrepôts détenus par exemple par la SNCF et la RATP. Il y a aussi cette annonce récente de la mairie de Paris, un dispositif pour la fin de l'année. Elle se propose d'acheter, quand cela est possible, le foncier, le terrain sur lequel est construit le bien, pour que l'acquéreur n'ait plus que le bâti à sa charge. Et ça permettrait, assure la ville, de diviser les prix par deux. Ce sera assurément un sujet pour la prochaine campagne municipale.
Merci Anne-Laure Jumet. Comme chaque jeudi, à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Laurent Pietraszewski, député de la République En Marche du Nord et coordinateur de la Commission des Affaires Sociales. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas Cluzel.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg.
Bonjour
Anne. Première question monsieur Pietraszewski. Hier, Cédric Villani a mis fin donc au suspense entretenu cet été pour annoncer officiellement sa candidature à la mairie de Paris en 2020. Une candidature, faut-il le rappeler, dissidente dans la mesure où elle enfonce une épine dans le pied de Benjamin Griveaux, le candidat investi par votre parti. Diriez-vous qu'Emmanuel Macron a été pris au piège, au fond, en favorisant l'émergence d'un candidat, en l'occurrence Cédric Villani, qui situe sa candidature aujourd'hui hors des jeux d'appareil, en s'affranchissant de tous les codes traditionnels, c'est-à-dire exactement comme l'avait fait Emmanuel Macron en se présentant à l'élection présidentielle?
Oui, on peut voir aussi les choses autrement, Thomas Cluzel. On peut aussi se dire que Cédric Villani, s'il est député aujourd'hui de La République En Marche, et je crois qu'il fait bien son travail pour le côtoyer régulièrement à l'Assemblée, eh bien il le doit à la Commission nationale d'investiture. Et cette Commission nationale d'investiture, qui d'ailleurs à l'époque a été présidée par Jean-Paul Delevoye, l'a désigné. Je crois que à ce moment-là, il était lui-même tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait une Commission nationale d'investiture. Pour les municipales, c'est la même chose. Moi, je regrette que Cédric Villani, qui est un acteur important de notre majorité, qui est un député efficace, soit, je dirais, un peu en marge, là, et n'ait pas suivi ce qu'il avait pris comme engagement, c'est-à-dire de respecter la décision de la Commission nationale d'investiture.
Question d'Anne Fauquemberg.
Début de la concertation sur la refondation du système des retraites à Matignon. On entendait à l'instant les réticences des syndicats avec Annabelle Grelier depuis Matignon. Alors vous chapeautez une quarantaine de parlementaires qu'on appelle les ambassadeurs retraite du gouvernement. Concrètement, votre rôle, c'est quoi ?
Bien, notre rôle, c'est de porter, en tant que parlementaire, et donc des parlementaires, il y a des députés et des sénateurs, de porter à la fois l'esprit, le contenu de cette grande transformation de société qu'est cette réforme, et aussi de faire remonter ce que, dans nos circonscriptions, nos concitoyens nous disent, et c'est ce que nous faisons depuis presque un an. Effectivement, nous sommes une quarantaine à faire à la fois ce travail de pédagogie auprès de nos concitoyens, mais aussi de remonter auprès de Jean-Paul Delevoye.
Ça veut dire que vous êtes régulièrement en lien donc avec Jean-Paul Delevoye, des rendez-vous réguliers, et Édouard Philippe aussi ?
On travaille avec Jean-Paul Delevoye, c'était sa responsabilité de haut-commissaire, et si on veut pouvoir, en tant que parlementaire, remonter des informations, il faut mieux le remonter à celui qui mène les concertations. Donc c'est ce que nous avons fait régulièrement, même mensuellement, avec des rendez-vous réguliers avec Jean-Paul Delevoye et son équipe. Pour ce qui est du Premier ministre, vous savez que le Premier ministre est très occupé, mais bien sûr que nous travaillons et que je travaille avec son cabinet.
Dossier extrêmement sensible, hein, politiquement, des préavis de grève déjà déposés pour la mi-septembre. Vous réagissez comment quand le président de la République, en une intervention télé, dynamite, entre guillemets, l'une des dispositions fortes de Monsieur Delevoye, l'âge pivot à 64 ans, pour privilégier une approche en termes de durée de cotisation?
Le président de la République, il donne un éclairage fort. Il pose le 26 août l'idée que tout est sur la table, que cette nouvelle phase de concertation, de consultation citoyenne, mais aussi de concertation avec les partenaires sociaux, votre correspondante tout à l'heure était à Matignon, tout est possible, on peut discuter de tout. Certes, l'objectif, les bases sont claires. Nous voulons construire un régime universel, plus juste, plus équitable, par répartition, où ce sont toujours les actifs qui payent les pensions de ceux qui sont en retraite. Donc c'est le système de la répartition. Nous voulons faire par points. Pour une raison simple, c'est que c'est le système le plus redistributif. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux ne s'y sont pas trompés, puisque tout le monde le sait, le régime complémentaire des salariés, l'AGIRC-ARCO, est un régime par points. Voilà l'objet de notre ambition.
Alors à quoi ça va servir cette concertation citoyenne dont on aura les détails la semaine prochaine, si finalement l'architecture de base est déjà posée ?
La cible est posée. Pour discuter, il nous fallait un contenu détaillé. Le rapport de Jean-Paul Delevoye, c'est cela, ce sont des propositions. Le président de la République, d'ailleurs, lui-même s'est positionné, vous l'avez dit tout à l'heure au début de notre échange, il a une lecture qui est peut-être sur la lecture de l'âge d'équilibre ou de la durée de cotisation. Il a repris une proposition qui était dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, qui n'est pas exactement la même que celle du haut-commissaire. Ça veut donc bien dire qu'on peut discuter de tout. À quoi cela va servir ? Mais ça va servir à discuter justement de ce rapport. Si vous m'avez invité, je crois, aujourd'hui, c'est bien parce que le président de la République, lui aussi, a donné son avis. Et je crois que les Français, les parlementaires, quand ça sera leur temps, mais dès aujourd'hui, certains s'expriment, dont je fais partie, veulent aussi participer à ce débat-là. Les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, c'est le cas. Ils sont à Matignon aujourd'hui et ils étaient depuis 18 mois, régulièrement, avenue Duquesne, dans le bureau de Jean-Paul Delevoye.
Alors, vous êtes pressenti pour devenir le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au sein du groupe parlementaire, ce groupe majoritaire de l'Assemblée, quels symptômes elle génère, cette refondation du système de retraite, entre les différentes sensibilités de ce groupe ?
Elle génère une immense énergie. Une immense énergie parce que nous sommes ici avec une volonté réformatrice. Nous ne sommes pas venus à l'Assemblée nationale. Vous le savez que La République En Marche, il y a parmi nous plus de 90% de néo-députés. Des hommes et des femmes qui faisaient autre chose dans la vie que de vivre de l'activité politique. Ce n'est pas un reproche pour ceux qui vivent de cette activité politique. C'est juste pour dire que nous avons aussi, nous, nos expériences, nos parcours de vie. Donc nous ne sommes pas, au travers de notre élection, venus défendre une rente de situation, nous sommes venus transformer la société. Nous sommes venus porter de nouveaux jalons, de nouvelles bases de construction à notre modèle social que nous voulons partager, créer un nouvel État-providence pour le 21e siècle. Et cette transformation du modèle de retraite en fait partie. Donc il y a beaucoup d'énergie. Les députés de La République En Marche ont envie de porter cette transformation et croient énormément à l'impact de la solidarité qu'il y a dans cette transformation.
Et qu'est-ce que vous attendez de l'opposition pour ce débat qui s'annonce à l'Assemblée nationale ?
En quelques mots, s'il vous plaît.
De l'ouverture. Je crois que nombreux sont ceux qui savent en faire preuve, aussi bien chez Agir que sans doute, je l'espère, chez les Républicains ou au Parti Socialiste. En tous les cas, de l'ouverture, parce que ce que nous voulons faire, c'est reconstruire ensemble un élément fondamental, c'est un socle de solidarité intergénérationnelle.
Merci Laurent Pietraszewski, député de La République En Marche du Nord, je le rappelle, et coordinateur de la Commission des Affaires Sociales d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux, porteurs de quelques averses, parfois orageuses, en particulier sur la Côte d'Azur et le nord de la Corse en fin de journée. Quant aux températures en nette baisse, elles afficheront entre 17 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.